If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Aujourd'hui, on va couvrir les événements Microsoft, Amazon, les annonces YouTube, OpenAI et de l'IA, il y en a beaucoup. Et enfin, de l'IA concrète, c'est tout de suite dans le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, c'est l'épisode numéro 532. Nous sommes en septembre encore 2023. Je suis Patrick Béja et je voudrais remercier les patriotes qui ont rejoint l'émission. Sacha Sis, Olivier Morin, Sébastien Karadec, Simon Robin et les producteurs SSI78 et Peter Rigal. Merci à vous tous d'avoir rejoint ce formidable navire. Je suis en train de lire One Piece. Si vous ne connaissez pas One Piece, il y a des pirates, il y a des camarades, il y a un esprit communautaire hyper contagieux et de bonne humeur. C'est un petit peu ça aussi, le Rendez-vous Tech. Il faudrait que je détermine comment on appelle ça ? Le Jolly Roger ? Le bateau, le flag, le pirate flag ? Je ne sais plus comment on appelle ça en français. Bref. Personne ne va m'aider, hein. Stéphane, il reste silencieux, Leïla dit rien, vous me laissez me noyer.
Moi, tant que tu n'as pas introduit les co-animateurs, je ne dis rien. C'est la règle dans le podcast, je n'emprunte pas les règles, Patrick.
Très bien. Bonjour Stéphane. Stéphane Leboisselier est avec nous aujourd'hui. Bonjour, comment vas-tu ?
Bonjour, ça va, merci. Merci pour l'invite, encore une fois.
Tout va bien du côté de la sécurité informatique, de ton travail,
beaucoup de travail pour changer. Une petite alerte chez nos amis d'Airbus cette semaine. Si vous avez suivi un petit peu l'actualité, voilà, des hôpitaux qui se font pirater encore et encore, ça continue. Voilà, comme dirait le chanteur, et c'est que le début.
Très bien, c'est pas rassurant, mais heureusement tu es là, tu arrives tel super-héros, tu atterris sur le pont du bateau, on va continuer sur la métaphore, pour le renflouer, voilà, on va dire que ça se passe comme ça. Leïla Marchand est avec nous aussi, qui fait une petite pause des échos pendant une petite heure pour parler encore plus de tech. Salut Leïla, comment ça va ?
Salut, et pour parler encore plus d'intelligence artificielle.
Ouais, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas, mais vous savez quoi ? Cette semaine, c'est du concret. Et ça va être le thème qui revient à chaque sujet, avec des choses vraiment qui servent à quelque chose, je pense. Hein. En tout cas, c'est ce qu'on nous vend. On nous vend du rêve. Mais avant ça, je voudrais quand même remercier la chatroom qui, elle, ne me laisse pas couler honteusement comme vous deux là. Pavillon. On parle du pavillon.
Du bateau. Mais oui, le pavillon, ouais. Bien sûr. Mais tu nous l'aurais demandé, on te l'aurait dit avec les uns. Ben, franchement, n'importe quoi.
Bon, donc il faut que j'imagine mon pavillon One Piece pour la communauté que rejoignent les Patriotes, que je remercie. Donc on boucle la boucle. Donc un grand merci aux Patriotes qui ont rejoint l'émission et qui font partie de l'équipe, de l'équipage même, dirais-je. Merci à tous les moussaillons qui font que le bateau Rendez-vous Tech reste à flot. Merci à vous tous. Et on va se lancer tout de suite dans les... Ah non, on ne va pas se lancer tout de suite, parce qu'il y a une chose importante. J'ai eu des messages, j'ai eu des cris de détresse qui me disaient « Mais où en est FitPatrick ? Où en est... Ton, je ne vais pas dire régime parce que ça serait un bien grand mot pour ce que je suis en train de faire, mais les petits efforts que tu fais, eh bien écoutez, ça se passe pas trop mal. J'avais comme objectif annoncé début septembre, c'était fin août ou début septembre, de perdre 5 kilos d'ici la fin de l'année. Eh bien, je peux dire que j'en suis à peu près à la moitié en un mois. Donc, peut-être mal. Que l'objectif sera atteint. Les kilos suivants sont plus difficiles à perdre que les premiers, mais... Je suis.
Et le but est d'augmenter le nombre de pompes que tu pourras faire au prochain event.
C'est ça. un petit peu. Non, j'en avais fait plus de 700, donc C'était quand même, ça sera
c'était, c'était beau déjà.
Non,
moi, je me serais arrêté à 7, je pense.
Mais ça sera d'être un petit peu plus beau en faisant les pompes que je faisais déjà, tu vois. Un petit peu plus, enfin beau, je sais pas, la beauté c'est subjectif, mais d'être un petit peu plus svelte. J'avais pas beaucoup de kilos en trop, mais quelques-uns. On verra. Mais je sais pas si vous voyez sur mon visage, en fait. Vous voyez, ça commence à se voir un petit peu, j'ai l'impression. Mais faudra faire un avant-après. Bref, Fit Patrick va bien. L'IRL du Corcoran le samedi 21 octobre va bien aussi. Vous pourrez constater par vous-même. Alors, il y a un truc quand même à savoir, surtout quand on prend un petit peu d'âge. Perdre du poids, ça ne veut pas forcément dire qu'on a l'air plus musclé. Vous voyez, c'est deux choses indépendantes. Je me concentre sur la première. Donc, n'ayez pas trop d'espoir non plus quand on se rencontrera au Corcoran le 21 octobre à 16h. Mais vous pourrez venir quand même, ça sera sympathique. Et donc, on se lance dans les infos de la... du Corcoran, j'ai dit de quoi il s'agissait. Une rencontre, en vrai, en live, en direct. Enfin, on se voit pour de vrai, on va prendre un verre. Donc,
Et moi, j'y suis le 19.
Eh ben,
pas le 21.
Reste jusqu'au 21. Leïla, ça sera au Corcoran, c'est un café à côté du. Enfin, un café. moi, je bois pas, mais je sais que les auditeurs. C'est à côté du Sacré-Cœur. Un bar qui s'appelle le Corcoran. Mais il y aura quelques personnes qui risquent d'être là, des co-animateurs. Cédric Ingrand m'a dit qu'il serait peut-être là, etc. Donc, joins-toi à nous! Ça serait l'occasion.
C'est un samedi, c'est ça.
C'est un samedi. Samedi 21. Et on décidera ensemble de l'effigie de la tête de mort du pavillon noir du bateau pirate du Rendez-vous Tech. En attendant, on va parler des pirates de la Silicon Valley. Enfin bon, on va parler de Microsoft et de leur événement mal nommé, je trouve, de leur événement Microsoft IA and Surface. C'était beaucoup plus IA que Surface, hein, quand même, cet événement. Ils ont annoncé... Alors, je vais vous résumer, hein, parce que sinon, on y passe la nuit. Il y avait deux choses qui m'ont marqué dans cet événement-là. Je ferai le même résumé pour les autres. Si vous avez d'autres choses à mentionner, n'hésitez pas, bien sûr. Mais évidemment, la plus grosse annonce, c'est l'IA qui est partout dans Windows, avec la prochaine version... Non pas Windows 12, hein, mais Windows 11, mise à jour de la deuxième moitié de 2023. C'est un petit peu exemplifié par Windows Copilot. Alors, vous savez que Copilot, désolé pour les sons de la montre, j'ai oublié de la silencifier. On va faire ça en trouvant le bon bouton.
Je la silencifie aussi, du coup, tiens.
Très bien. Donc, Windows Copilot, vous vous souvenez que Copilot, c'est l'implémentation de l'IA, enfin le nom que Microsoft avait donné à son implémentation de l'IA sur LinkedIn d'abord, je crois, ou non, c'était pour le code sur
le dev.
GitHub.
Ouais, c'est pour le dev.
C'est ça,
GitHub
pour le dev.
Et VS Code.
Exactement. Et là, ils ont implémenté donc dans différents logiciels. Aujourd'hui, c'est dans Windows. En gros, c'est Bing Chat AI qui est implémenté dans Windows et qui peut vous aider à faire plein de choses dans Windows, comme par exemple le fait de résumer n'importe quelle page sur laquelle que vous êtes en train de lire, créer du texte, etc. Enfin, tout ce dont on a pris l'habitude, je ne vais pas le répéter, on en a assez discuté, tout ce dont on a pris l'habitude de parler avec l'IA générative nouvelle génération depuis l'année dernière, implémenté directement dans Windows. Ça s'applique aussi à d'autres logiciels. On a une mise à jour de Paint, figurez-vous, avec des couches, différents layers, etc. On a des logiciels qui intègrent de l'IA pour vous aider à faire différentes choses. Mais vraiment, l'IA de Windows devient un assistant personnel qui peut vous dire ce qu'il faut faire pour... accomplir une tâche en utilisant tel ou tel logiciel que vous avez installé, etc., etc. C'est vraiment l'IA un petit peu telle qu'on l'aurait rêvé implémentée dans Windows, qui devient une interface d'utilisation de Windows presque, qui se substitue aux recherches que vous allez devoir faire pour comment je dois faire ça, comment je dois faire ça. Ben là, vous demandez directement à Copilot et il va parfois vous dire comment faire, parfois vous le faire directement. À noter que cette IA utilise la nouvelle version de ChatGPT et de ChatGPT qui intègre DALL-E, qui est multimodal, qui va pouvoir avoir comme ingestion plus seulement du texte, mais également des images, et que OpenAI a signé des contrats avec, est en train de signer des contrats avec tout le monde. Il y a Spotify qui a, c'est un petit à côté, mais Spotify qui signe avec OpenAI pour générer des podcasts traduits dans une langue différente avec la voix de la personne qui fait le podcast à la base pour automatiser ce processus. Getty Images qui va faire de la génération d'IA, alors là c'est avec Nvidia, mais de la génération d'images par IA entraînée sur sa propre banque d'images, donc il n'y aura pas de problème de protection légale ou de droit d'auteur, etc. etc. ChatGPT est mise à jour. Il y a une activité folle à ce niveau-là, on ne va pas tout couvrir, mais l'implémentation la plus forte, je pense, c'est Windows. Donc ça, c'est la chose que je voulais mentionner. L'autre chose, c'est dans cet event IA et Surface, bah, il y a des nouveaux Surface, un laptop Go, qui est un véritable portable, ultra portable, laptop Studio 2, c'est un portable, un ordinateur hein, bien sûr, dont l'écran peut se plier soit contre le, pour refermer le clavier, soit on peut le retourner pour avoir une sorte de tablette, enfin, il est plus versatile mais un peu plus lourd. Le Surface Go 4, Surface Go, bah, c'est une vraie tablette, elle, pour le coup, pas comme les laptops. Et puis un nouveau hub qui est un gros truc de 50 pouces ou 85 pouces 4K sur lequel on peut dessiner, etc. Bon, en gros, le matériel, ce n'était pas la star de cette conférence. Je pense qu'on était vraiment sur l'IA. L'IA qui est concrète. On a pendant un an passé chaque épisode à vous dire « Vous allez voir, l'IA, ça peut faire ça, peut faire ça, peut faire ça. » Et dans quelques temps, ça va arriver implémenté dans vos logiciels. Et bien là, c'est un petit peu le thème. C'est vraiment dans nos logiciels et on peut s'en servir. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont particulièrement marqué dans cet event, des choses que vous retenez ? Je vais donner la parole d'abord à Stéphane, qui se mange les doigts de stress à l'idée de bah, devoir résumer tout ça.
Non, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que je vais pouvoir lui raconter ? non, alors, j'ai trouvé les démos plutôt intéressantes, parce qu'il y a quand même une vraie intégration, du coup, dans l'OS, parce que tu as carrément une icône avec une app, etc. Donc c'était quand même assez intéressant. Avec, tu l'as dit en intro, du concret, qui était pas mal. Alors c'est vrai que le côté vas-y, réorganise-moi mes fenêtres, quand on sait que sur Windows 11, on n'a plus qu'à appuyer sur un bouton, bon, c'est pas forcément ce qu'on va utiliser le plus. Mais il y avait quand même des suggestions par rapport à ce que tu es en train de faire, le coup de résumé, etc. C'était plutôt pas mal et on voit qu'effectivement là on a passé un cap, c'est-à-dire que on a découvert l'IA et ses possibilités, on a bien rigolé avec, maintenant on essaye de voir en pratique ce que ça va donner et ce qu'on peut apporter aux utilisateurs. Et Microsoft essaye de montrer un peu effectivement la valeur ajoutée. Alors je suis allé sur Bing.com chat hein, quand j'ai vu la conf. Bon, c'est pas encore tout à fait tout à jour hein, parce que pour le projet perso dont je te parlais en amont, je lui ai demandé un logo. Bon, il m'a sorti un panneau d'autoroute. En lui demandant de me fabriquer un logo, il m'a sorti un panneau d'autoroute et il m'a dit « Est-ce que tu veux que je rajoute une voiture ?» Bon, j'ai fait « Ok, c'est pas encore tout à fait au point. » Mais bon, c'est pas très grave. Mais voilà, je trouve quand même que ça essaye d'aller vers le concret et de montrer aux gens que « Ok, on vous a mis de la poudre aux yeux, on vous a fait peur. » Mais ça peut aussi vous apporter des choses, et on ne va pas se leurrer, hein, ça ne va pas forcément pour l'instant révolutionner, mais ça peut aider à augmenter la productivité. Donc, je trouve ça plutôt intéressant.
Leïla, c'est vrai qu'on a toujours cet effet conférence, présentation, où tout marche super bien, et puis c'est pile des cas qui s'adaptent parfaitement aux capacités de la fonctionnalité qu'ils veulent mettre en avant. Est-ce que tu crois plutôt au potentiel vraiment impactant de ce genre de technologie ou est-ce que tu crois qu'il y a quand même beaucoup de poudre aux yeux ? Parce que l'intégration à l'OS, c'est quand même une grosse étape, quoi. Et c'est une grosse étape qui nécessite aussi une... Enfin, comment dire ? C'est un gros morceau et c'est beaucoup plus facile à raconter et de faire rêver les gens que de l'implémenter comme il faut dans tous les cas de figure qu'on peut imaginer dans l'utilisation d'un OS. Tu le vois aller dans quelle direction, là, avec son arrivée d'ici la fin de l'année ?
Mais justement, j'ai hâte de voir comment est-ce que les gens vont le prendre en main, quels sont les cas d'usage qui vont vraiment décoller ou pas. Enfin, parce que moi, personnellement, j'ai trouvé ça intéressant, mais je ne me suis pas forcément retrouvée à me dire « Ah ça, j'ai hâte de pouvoir le faire, par exemple. Enfin, je ne fais pas d'équation au stylet sur mon ordinateur. » Ou alors, si je fais du search... J'aurais du mal à faire confiance à tous les résultats apportés par l'IA ou s'il me résume mes mails en me disant « voilà, c'est ça qui était important dans vos mails ce matin », je me dirais « bon, je vais quand même regarder moi-même si ça vient vrai ». On balaye d'un revers de main tous les problèmes liés à l'IA dont on parlait déjà en début d'année sur les problèmes de biais, les problèmes d'erreur. Et en fait, on se demande un petit peu en arrière-boutique comment ça marche. J'attends de voir comment les gens vont s'y retrouver, vont le prendre en main. Mais comme on disait, oui, c'est le début. Mais voilà, j'attends de voir. Je suis curieuse.
Ouais, j'attends de voir. Je crois que c'est une bonne attitude parce que il y a quand même beaucoup de cas où ça marche. C'est ça qui est un petit peu... qui rend la chose difficile à appréhender. Parce qu'il y a beaucoup de cas où il y a des problèmes, ça pose des problèmes. Et il y a beaucoup de cas où ça a quand même l'air assez magique. Donc, sur lequel on va tomber au moment précis où on utilise le truc, est-ce qu'on va savoir comment formater nos requêtes, repérer ce qui ne va pas dans les réponses, etc. Ça sera évidemment moins magique que ce qu'ils présentent dans leur présentation. Je crois qu'il y aura quand même, quand on commence à maîtriser l'outil, j'imagine que on va avoir une appropriation en deux ou trois temps de ce type d'outils dans des logiciels. Encore une fois, ce qui change aujourd'hui, c'est qu'on les a dans les logiciels qu'on utilise au quotidien comme fonctionnalité supplémentaire. Donc au départ, on va se dire « Oh, c'est incroyable, on peut tout faire !» Et donc, on va avoir une sorte d'euphorie irréaliste. Et puis, on va se rendre compte qu'on ne peut pas tout faire. Et donc, il va y avoir une grosse déception et une sorte de retour de bâton, genre « Non, en fait, l'IA, c'est nul. » Et puis, petit à petit, les gens vont se rendre compte ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire et finir par l'utiliser de manière intéressante et pour productive et ce genre de choses, je pense. Mais...
Après, il va s'intégrer sous Office 365, etc. aussi, hein, tu sais. Donc, ça fera un peu comme le compagnon qu'on avait, hein, le petit trombone à l'époque.
comment il s'appelle ?
Avec un mix de Cortana, comme ça, on a fait l'ensemble des trucs qui n'ont pas marché. Moi, je suis un peu comme Léla, j'attends de voir. On a de plus en plus d'outils, en plus, qui nous proposent Alors, moi, j'ai découvert il y a trois jours qu'en fait, on en avait aussi sur Opera, parce que j'utilise en ce moment Opera. Tu as un truc qui s'appelle AI Prompt, OK. Sur mon application de mail sur le téléphone, il y a la possibilité aussi d'activer une intelligence artificielle qui te résume tes mails ou qui te répond automatiquement à tes mails qui sont les moins à valeur ajoutée. J'ai pas encore eu le cran, on va dire, de l'utiliser. Un peu comme Léa, j'ai un peu peur que le truc me réponde n'importe quoi. Et me fasse des résumés qui sont pas du tout pertinents.
Et puis je vois aussi dans les commentaires là, c'est assez intrusif, mais c'est vrai que c'est un outil qui va être branché un peu sur des tas de sources, que ce soit sur nos mails, nos recherches, dans l'OS, toutes ces données personnelles qui sont pompées de partout. On se demande un petit peu qu'est-ce qui en sera fait. Est-ce que c'est réutilisé ensuite pour entraîner l'IA? Est-ce qu'on peut dire non ou pas?
Une question très importante. J'imagine que Microsoft dira « Non, non, on ne réutilise pas vos données parce que, évidemment, c'est l'un des soucis qu'on a eu. » Mais il faudra y prêter attention, c'est certain. On évoque aussi dans la chatroom le fait que l'IA, ça fait plein de serveurs derrière pour toutes ces utilisations en plus. Ce n'est pas faux. Et puis, pour réorganiser les fenêtres, ce n'est peut-être pas forcément nécessaire. Je pense que ça ne sera pas l'utilisation principale de l'outil, mais tout de même, étant donné qu'il sera intégré à Windows. Ça a des avantages et des avantages aussi. On pourra en parler peut-être un autre jour. Sur les annonces de matériel, bon, pas grand-chose. Si vous cherchez un appareil, c'est peut-être le moment de vous y intéresser. Moi, je vais mettre dans la newsletter, en plus du résumé en 10 minutes ou 11 minutes de la conférence, je vais vous mettre un petit rapport de Headbot sur le business Surface de Microsoft, donc tous les appareils. et la manière dont ils ont fait une progression fulgurante les quelques premières années et la manière dont ils sont sur une chute, une pente descendante dramatique depuis le milieu, la fin de la pandémie. Donc, on ne sait pas très bien où ils vont aller avec tout ça. Vous aurez l'analyse dans la newsletter. Évidemment, la personne qui nous a manqué dans cette présentation, c'était Panos Panay, qui est parti de Microsoft, qui a annoncé son départ il y a quelques jours. On en parlait la semaine dernière. Peut-être en raison des changements dans l'organisation de la division Surface et qui risque de rejoindre Amazon pour gérer l'unité Alexa et Echo. Donc, on verra si effectivement ça sera le cas. Ça serait sans doute une personne adaptée à ce genre de rôle. Mais ça nous permet de passer à l'event Amazon qui s'intitule Devices and Services 2023. Et là aussi, il y aura un résumé de 11 minutes dans la newsletter. On aime bien les 11 minutes. Hein. C'est une conférence d'une heure qui pourrait être résumée en 11 minutes. Pourquoi ne pas la faire de 11 minutes à la base et économiser de l'énergie pour streamer une heure alors qu'en fait, on n'a besoin que 11 minutes. Là encore, deux choses que je retiens. De l'IA encore, hein, avec une possibilité d'entrer dans une conversation avec Alexa dans un mode conversation-discussion. Donc, on dit à Alexa, « Hey Alexa, let's chat ». C'est un petit peu Alexa GPT. Je ne pense pas qu'ils passent par OpenAI, mais ils ont un outil qui est un équivalent.
Interne.
Voilà. Et on peut donc discuter avec Alexa comme on le fait avec ChatGPT, qui a des possibilités, évidemment, Alexa, dans ce mode-là spécifique, a des possibilités beaucoup plus importantes que dans le mode classique. C'est intéressant qu'il y ait cette sorte de ségrégation entre les deux modes. Je pense qu'elle est nécessaire parce que, justement, il y a encore des petits soucis. Une autre chose que je retiens, c'est sur l'un de leurs appareils, là aussi, c'est Devices and Services, donc il y avait appareils et services, beaucoup d'annonces d'appareils, comme on le voit souvent chez Amazon. L'un des appareils, c'est le Echo Show 8, donc cette petite tablette statique qui est posée sur une table ou un comptoir dans une cuisine. Et elle a une UI qui se modifie en fonction de la proximité entre la personne qui l'utilise et l'appareil. C'est assez intelligent. Quand vous êtes plus loin, les éléments sont plus gros et plus lisibles. Quand vous vous rapprochez, les éléments d'interface se modifient pour afficher plus de détails, etc. C'est plutôt malin. C'est la chose que je retiens dans les appareils parce que le reste, c'est du Amazon classique. Hein. C'est assez bon marché. Ça fait le job pour le prix. Et ce n'est pas les trucs les plus époustouflants qu'on pourra voir.
Tu ne retiens pas les lunettes.
Oui, tiens, tu peux nous en parler si tu le souhaites. Elles sont sympathiques.
Non, ça va. Mais... non, mais c'est vrai. Bon, j'ai été étonné de voir qu'ils continuaient sur le segment avec les Echo Frame.
C'est ça, c'est la deuxième ou troisième version de ces lunettes qui sont juste des
troisième,
lunettes.
Troisième, je crois. Qui sont juste des lunettes qui permettent d'entendre et d'utiliser Alexa. Il n'y a pas d'image dessus. Mais non, voilà, j'étais étonné qu'il continue sur le segment, puis il continue, puis il y a plusieurs couleurs maintenant, plusieurs formes de lunettes, etc. etc. Je ne suis pas un grand fan des Fire TV, mais la barre de son est assez intéressante, et la démo sur le nouveau moteur de recherche Fire TV qui doit utiliser une partie de l'IA d'Alexa, était quand même assez intéressante parce qu'il lui parle comme on aimerait pouvoir parler à un moteur de recherche en langage classique, vraiment parler, en lui disant nous on aime bien les jeux vidéo dans la famille, tu me conseilles quoi comme film? Ah ouais, mais là je veux le regarder avec mes ados, hein, ok, ah non mais on préfère ce type là. Donc c'était quand même assez intéressant à voir. Et après oui, le Let's Chat avec Alexa, il est quand même, même s'il y a eu un petit effet démo raté, puisque je pense que l'Echo Show n'arrivait pas à bien entendre l'orateur à certains moments. Donc il y avait un petit délai. Mais en fait, ce qu'ils expliquaient qui était intéressant, c'est que Alexa, quand on discute comme ça avec elle, elle interroge plein d'API en simultané, et qu'ils ont fait un gros travail pour optimiser tout ça pour que justement la conversation soit rendue fluide. Et c'est vrai que là, on peut lui dire une phrase et lui dire « Ah non, mais en fait, c'est pas ça que je voulais, c'était ça. » Et si tu le fais aujourd'hui sur ton Alexa, ça ne marche pas, hein, elle est complètement perdue, etc. Enfin, bref, c'est une horreur. Alors que là, c'est vraiment, effectivement, comme avec un humain, on peut faire une discussion un peu à bâton rompu. Alors, ils m'ont fait un peu peur parce que quand ils ont présenté ça... ils ont dit oui parce que quand on parle avec un humain, il a des expressions de visage, des gestes, machin tout. J'ai dit ça y est, ils vont allumer la cam H24 niveau RGPD, on va encore se mettre bien. Et en fait non, en fait c'est plus dans le côté voilà, c'est animé, on peut discuter à bâton rompu, mais ça va. Il n'y a pas encore d'analyse en temps réel de si vous froncez les sourcils, si vous faites des gestes en parlant, etc. Mais j'avoue que la façon dont ils ont introduit le truc m'a fait un peu peur. Je sais pas si tu as vu toi, Léa, mais...
Non, j'avais pas vu la démo, mais je me demande un petit peu. Oui, en tout cas, c'est vraiment ce qu'on attendait, parce que c'est vrai que ce soit sur Alexa ou sur Siri, la discussion aujourd'hui avec les chatbots, c'était vraiment pénible. mais est-ce que ça suffira à relancer cette enceinte Amazon, on se demande un peu, parce que pour moi, l'intérêt, enfin, au-delà de juste lancer une musique ou avoir des suggestions, c'est d'avoir une maison connectée, enfin d'avoir une enceinte connectée au reste de la maison. Et ça, je pense qu'il n'y a qu'une infime partie des gens qui ont à la fois une enceinte connectée et une maison connectée. Et ça a vraiment du mal à décoller. Donc, je me demande un petit peu les applications, là encore, à voir.
Peut-être que...
Sur la maison connectée avec le piratage aussi. Hein. Il y a énormément de piratage autour d'Alexa.
Oui, mais
et
toi,
la
tu as un marteau qui voit des clous partout. Ouais. Tu vois, dès qu'on te dit un truc, tu dis « Ah bah attends, piratage, RGPD, tu te rends pas compte !» Mais je me demande, Léla,
laser,
si là...
Alexa.
Je me demande, Léla, si l'implémentation genre sur une Fire TV, par exemple, un petit peu plus focalisée, ça peut pas fonctionner parce que plutôt que de dire bah, « tu peux parler de n'importe quoi, tu peux dire n'importe quoi », si tu parles spécifiquement de ce que tu veux regarder, bon, bah, là, tu centres un peu plus. Je me dis que là, ça peut servir.
On parlerait à la télé, alors.
C'est ça, pour ce qu'on veut regarder. D'autant plus que je trouve qu'on se concentre un petit peu là sur l'une des choses que fait très bien l'IA, en fait, qui n'a pas été présentée autant de cette manière, c'est de devenir une interface homme-machine pour remplacer ou complémenter les claviers et souris, etc. C'est encore plus que d'autres choses, c'est un interpréteur qui va interpréter pour une machine ou réussir à interpréter pour une machine ce que toi tu veux. Et dans le cadre de ce que tu veux regarder sur ta télé, il y a tellement de choix, tellement de chaînes, tellement de trucs, il y a trop de données. Et c'est un truc dont tout le monde se plaint. Qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui ? On a 10 services de streaming, 60 séries par service, etc. Bah, peut-être que...
Et comment est-ce que je le regarde aussi ? C'est la question aujourd'hui. Et je veux regarder ça, mais c'est sur quelle plateforme ? Sur Netflix ?
C'est ça, oui.
Ah non, c'est pas là.
L'un de mes sites préférés, c'est Just Watch. Just Watch, ils te disent sur quel... C'est juste un truc qui te dit sur quel service est disponible telle série dans ton pays. C'est tout.
Bah, hyper utile, oui.
Ouais, mais même les films, hein, parce que en plus, comme les catalogues se renouvellent, tu avais l'habitude de... Moi, les enfants, c'est une catastrophe, quoi. Ma fille, elle arrive, elle dit « Mais avant, je regardais ce film-là sur Disney, il n'y est plus !» Je fais « Ah, ok. » Alors, et j'essaye désespérément de le retrouver. Et voilà, ça va, ça vient, le catalogue. Après, Android TV le fait assez bien, ça. Hein. Il te fait des recos, etc., sur les différents sites de streaming sur lesquels tu es abonné. Enfin, moi, je vois sur la télé, on a une télé Android TV, c'est assez bien fait. En tout cas, tout ça met en lumière encore une chose, c'est que Siri est complètement à côté de la plaque.
C'est sûr.
J'avais des gros espoirs sur la dernière conf de dev d'Apple. Il n'y a rien eu concernant Siri de révolutionnaire, encore une fois. J'espère qu'ils travaillent sur quelque chose, parce que Siri est vraiment le plus bête de tous. Là.
Et Apple, en général, un peu à la traîne niveau IA générative. Pour le moment, ils n'ont rien annoncé.
Non, rien du tout.
On peut imaginer que ça arrivera à la prochaine conf, mais bon, ça c'est un autre sujet.
Sur les fonctionnalités liées à la voix, en tout cas, on se demande, parce que c'est vrai que ce sera beaucoup plus naturel de pouvoir parler avec une enceinte connectée ou avec sa télé, mais je me demande vraiment, est-ce qu'on a envie de le faire ou pas je sais pas, j'ai pas forcément, je sais pas pour l'instant, en tout cas, j'aurais pas le réflexe de m'adresser à un appareil. Est-ce que j'aurais envie de le faire dans la vie de tous les jours ? Est-ce que c'est pas plus simple de faire les choses en écrivant ou en... parce que c'est des choses qui existaient déjà un petit peu sur les smartphones ou ailleurs, et je préfère toujours l'option où on n'a pas besoin de parler, en fait.
Mais, je me...
mais ça c'est nous, on est vieux.
Non, mais c'est pas... non, non, c'est pas ça. Enfin, oui, peut-être, mais aussi, c'est pas ça, c'est que ça marche pas aujourd'hui. La conversation avec les assistants intelligents, il faut que, avant même de poser ta question, tu réfléchisses à la manière dont tu vas la formuler. Et
oui, mais ça, je le vois à ma fille. Hein.
Continuer la... Non, mais peut-être que ta fille le fait déjà, mais pour nous, je pense que... Enfin, je pense que c'est pour la plupart... Tout le monde est d'accord que Siri est à la ramasse, par exemple, tu vois. Mais
oui.
Je pense que le jour où on pourra converser pour demander quelque chose, moi, je peux tout à fait imaginer qu'au lieu de lancer, allumer ma machine et puis lancer telle app et machin, si je dis simplement « Hey, bidule, je veux regarder truc » et que ça se lance, bah pourquoi ne pas l'utiliser, tu vois ? Non, je vais aller là.
D'ailleurs,
si
dans
ça,
la conférence...
Imagine si ça fonctionne. Au lieu de devoir faire une recherche et sortir ton téléphone pour taper sur le truc parce que tu n'as pas de clavier sur ta box... Et tu dis simplement ce que tu veux et que ça fonctionne et que tu dis « Ah non, non, attends, plutôt ça, non, c'est pas tel film dont je voulais parler, c'est un truc avec tel acteur. » Tu dois pas l'utiliser, un truc comme ça ?
Peut-être, oui, peut-être. Et puis bientôt, avec l'interface cerveau-machine, j'aurai juste à penser à ce que je veux.
Merci, Elon.
Voilà, oui, disons
tu,
que...
tu sais, il y a un truc qui m'a étonné hein, dans la conf Amazon, c'est qu'à un moment, le gars, il dit... ouais, alors on est en train de travailler pour que quand vous dites à Alexa allume la lumière du salon, elle allume bien la lumière du salon. Mais what? Bah, c'est sûr que si je te dis allume la lumière du salon et que tu m'allumes la chambre, ça va pas le faire. Donc, donc ça veut quand même dire que ouais, on est quand même encore loin. Alors nous on l'utilise à la maison, les enfants l'utilisent. Mais c'est vrai que comme tu le disais, en fait, t'es un être humain. Et t'as pas le droit à l'hésitation. C'est-à-dire que si tu hésites dans ta phrase, ça y est, l'assistant, il est perdu. Et peut-être que justement, avec ce nouveau système de chat, là, tu auras le droit, enfin, d'être un petit peu humain, toi aussi. Tu vois.
Le droit d'être un peu humain. Je pense que c'est... Le droit d'être un peu humain, c'est peut-être le titre de l'épisode. Je me demandais si c'était pas plutôt l'IA entre en phase 2. Parce que vraiment, on est en train d'entrer dans une phase où l'IA générative est implémentée dans les outils qu'on utilise tous les jours. Mais je crois que le droit d'être un peu humain gagne. Et je suis en train de le noter tout de suite. Le droit d'être peu humain. Mais c'est vrai en plus.
La première
fois
que je trouve un titre.
C'est ce que fait cette IA générative conversationnelle, c'est qu'on peut parler normalement et ça change tout, quoi.
Ouais.
D'ailleurs, un autre truc qui change tout avec ces IA génératives, c'est que Amazon a dû, a dû imposer une limite aux auteurs qui publient eux-mêmes leurs livres, de 3 livres publiés par jour sur le site, parce qu'il y avait des livres générés par IA qui étaient publiés par dizaines, et donc... par dizaines par jour, et donc ils ont dû limiter à 3 par jour pour que ça soit, et puis ils aient le temps de repérer et que ça soit pas complètement inondé, le site ne soit pas inondé par des livres faits par IA, donc comme quoi, il y a plein de choses qui changent. Mais il y a aussi une série d'annonces de YouTube que j'ai trouvé très intéressante, là encore dans cette, on va dire, phase 2 de l'IA générative qui donne des résultats concrets utilisables pour les créateurs, les utilisateurs. Ici, celui que je voudrais mettre en lumière, c'est un truc dont on parlait pas plus tard que la semaine dernière, avec la possibilité de changer une vidéo pour en changer d'une part le son qui serait traduit et doublé avec une voix clonée de la personne qui parlait à la base. Donc, on a une vidéo qui était, par exemple, en français ou en anglais, qui est ensuite transformée en la même vidéo en allemand, au hasard, avec en plus le changement de la vidéo elle-même, des lèvres, pour adapter le mouvement labial à la nouvelle langue. C'est un truc dont on parlait la semaine dernière Et YouTube vient de le dévoiler comme une fonctionnalité nouvelle pour ses créateurs. Alors, ça va être un petit peu de temps à être implémenté, on n'en doute pas. Mais c'est une application là qui est très concrète, qui pour moi symbolise aussi cette phase 2 de l'IA, où c'est plus l'émerveillement face à aux possibilités, mais l'implémentation concrète. Pour certains créateurs qui auront accès à cet outil, ils pourront décliner leurs vidéos en plusieurs langues, pas juste avec l'audio, mais en changeant le mouvement labial aussi. Donc, ça collera à ce qu'ils disent. Et ça fonctionne. Hein. On l'a vu très concrètement, ça fonctionne très bien. Il y a d'autres annonces également, des outils pour les shorts qui vous permettent de changer des parties de la vidéo ou des images de fond, etc. Que je regarde, oui, bref, il y a plein de petits outils comme ça, mais celui que je retiens, c'est celui qui change la voix. Je sais pas, je vais donner la parole à Leïla d'abord, mais ça a l'air magique. Je me demande si les créateurs vont l'utiliser. J'ai du mal à imaginer, je sais pas, par exemple... au hasard, Squeezie faire ses vidéos, décliner ses vidéos en allemand pour aller conquérir le marché allemand, mais peut-être que je ne pense pas aux bons usages.
À l'inverse, j'avais l'impression que justement, c'était vraiment une attente de plein de YouTubeurs, pas forcément sur cet usage-là, mais par exemple pour changer le fond, là, on peut écrire un prompt, lui dire « je voudrais un arrière-plan comme ci, comme ça ». Ou alors quand même, ouais, la traduction, c'est vraiment dans les usages attendus, je pense, et je pense qu'il y aura une nécessité pour ces acteurs-là de les prendre en main très rapidement, parce que ça va très vite. Je pense que les usages vont évoluer très vite. Tous ceux qui travaillent dans le montage, dans la traduction, je pense que s'ils ratent ce virage-là de l'IA, ils vont être remplacés par des gens qui savent utiliser ces outils, parce que y a déjà des personnes qui, par exemple, font du doublage, qui ont reçu une note comme quoi finalement on fait plus appel à vos services parce qu'il y a une IA qui a fait aussi bien. Donc ouais. Je pense qu'ils se trompent pas sur ces usages-là.
Ouais. Je me dis les trucs comme Squeezie, les vidéos un petit peu drôles, ce genre de choses, pas forcément, ça va pas forcément être la cible.
Non.
Mais plutôt des trucs, je ne sais pas, de review ou d'information, ou je pense à des trucs assez ciblés, comme au hasard,
top,
des reviews de cartes graphiques.
Les top 10.
Ouais, ou alors des reviews de cartes graphiques. Tu vois, des gros reviewers qui font plein de reviews de cartes graphiques au hasard, ou d'écran, ou je ne sais pas quoi, en anglais, qui vont pouvoir faire la même chose en français avec deux clics et peut-être des corrections de script traduit qui vont prendre une heure à corriger au lieu de deux jours à traduire. Peut-être que ça pourrait créer un marché nouveau ou attirer de nouveaux spectateurs. Je ne sais pas. Mais...
Il y a des avantages et des inconvénients, je pense. Tu vois, par exemple, j'ai un anglais qui est plutôt bon, mais effectivement, j'ai une chaîne, on va dire, parce que je publie plus trop dessus, mais j'ai jamais eu le temps de faire les vidéos dans les deux langues, tu vois. Et je me dis, avec un outil comme ça, c'est génial, parce que je pourrais toucher à la fois un public anglais et à la fois un public français. Bon, à condition que, niveau technicité, il soit capable de traduire, puisque comme c'est une chaîne d'impression 3D, il soit capable de traduire les termes techniques en anglais. Le seul problème, c'est qu'il y a aussi ma personnalité, il y a mes blagues pourries, etc. Et en fait, du coup, tu vois, j'ai peur qu'on soit obligé d'aseptiser un peu ces vidéos pour être sûr que ça passe au niveau de cette IA. C'est un peu ce qui me fait peur avec ce genre d'outil. C'est hyper utile, mais j'ai peur que du coup, pour être sûr que ça soit bien traduit automatiquement, on soit obligé d'un peu uniformiser les contenus et ça serait dommageable.
Je pense que là où ils seront le plus utiles, c'est sur des contenus déjà un petit peu froids, des tutoriels, des comparaisons, des choses comme
tutos,
ça.
Ouais.
Ça pourrait être vraiment utile et ça va être très utilisé. Et ensuite, tu peux choisir ta langue dans la vidéo, comme on peut choisir la langue de la traduction d'ailleurs. Le sous-titrage est déjà traduit automatiquement depuis longtemps sur YouTube. Enfin, il y a une version automatique qui est disponible. bah là, ça serait une option supplémentaire pour la voix qui serait faite automatiquement en amont par le créateur. Je pense que c'est un outil de plus, mais c'est une implémentation assez concrète qui pourrait être utile dans certains cas, quoi. Comme les podcasts traduits dans différentes langues, je serais curieux de voir ce que donne vraiment un podcast que j'ai enregistré traduit en allemand ou je sais pas en japonais ou un truc comme ça, bon, en anglais.
Surtout une langue que tu comprends toi, comme ça tu verrais. Tu
vois, ah bah oui, que... ça c'est si je commence à traduire dans une autre langue, ça va être compliqué de vérifier. Et comme on le disait, les IA on fait pas forcément confiance aveugle à ce qu'elles produisent. Donc.
Nope.
C'est à peu près tout pour les trois gros sujets de cet épisode. Vous allez voir qu'on a, on va avoir d'autres sujets qui vont venir, mais qu'on n'en a pas tout à fait fini avec l'IA. En attendant, je voudrais vous rappeler que cette émission est financée par ses auditeurs. C'est pas une IA qui finance le Rendez-vous Tech, c'est les gens qui écoutent. Que vous écoutiez en français ou dans d'autres langues à l'avenir, eh ben c'est grâce à vous que l'émission existe. Vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech et découvrir les multiples façons dont vous pouvez soutenir l'émission. Spoiler, elles sont toutes avec envoyer des sous à Patrick. Hein. C'est à peu près, on couvre le spectre des possibilités avec ce concept. Patreon.com/rdvtech, vous pouvez le faire tout de suite. Vous pouvez le faire tout à l'heure, si vous le faites tout à l'heure, par exemple, quand vous le savez, hein, vous le voyez venir, cling Patrick, vous mettez les clés dans le bol et ça vous rappelle que Patrick est la personne qui est dans votre cœur et dans votre esprit au moment où vous mettez les clés dans le bol et vous allez sur patreon.com/rdvtech. Vous découvrez tous les bonus incroyables que vous pourrez avoir, comme par exemple l'absence de publicité dans cette émission, comme par exemple le fait que je vous enregistre des petits éditos sympathiques pour vous parler de ma vie, comme par exemple le fait que vous ayez dans la newsletter des petits contenus supplémentaires, des liens que j'ai trouvés super intéressants lors de mes pérégrinations sur Internet. Bref, il y a plein de choses à découvrir sur patreon.com/rdvtech. Et puis surtout, le bonus le plus important, c'est le fait que vous soutenez cette émission et vous avez cette fierté intérieure, cette chaleur dans votre cœur que vous ressentez parce que vous permettez à cette émission d'exister. Merci à vous tous et à vous toutes de votre soutien au Rendez-vous Tech.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Quelques petites news en plus. Alors, Google ne réussit pas à ne pas faire de leak. Et là, c'est le Pixel 8, Pixel 8 Pro, qui a été révélé dans une vidéo leakée, enfin, dans une vidéo publiée par erreur, hein, comme à chaque fois. Franchement, rien d'incroyable dans cette vidéo. Ça se trouve, il y aura des choses complètement folles lors de la présentation. Ça arrive très bientôt. En gros, un appareil photo principal de 50 mégapixels, de l'amélioration dans la photo numérique et le traitement numérique des photos. Google a toujours été très fort là-dessus. Je crois qu'on n'a pas besoin forcément d'y passer très très longtemps, à moins que vous n'ayez quelque chose de spécifique qui vous a marqué. Bon, le Pixel 8 arrive.
C'est ça.
Une vidéo qui sera dans la newsletter aussi, qui n'est pas forcément la vidéo la plus incroyable de l'histoire, mais qui note une pratique intéressante, qui est la pratique des digital nomads. Est-ce que vous savez ce que c'est tous les deux, les digital nomads ?
Ouais, parce qu'on a regardé le document avant de préparer l'émission.
En préparant l'émission, c'est bravo, bravo. Voilà. Les digital nomades, c'est des gens qui, étant donné qu'avec Internet, on peut travailler de n'importe où, ce sont des gens qui vont travailler... Alors, pas forcément de n'importe où, mais en l'occurrence, à Bali. Alors, encore une fois, la vidéo en elle-même...
Ils ne vont pas à Roubaix.
Non, ils ne vont pas à Roubaix. Ah, peut-être.
Hein, si, il y en a aussi qui vont à Roubaix. Il y en a qui vont à Roubaix, même à Dunkerque.
C'est digital peut-être mieux que Paris 24. En même temps, hein, tu vois. Il voilà. Faut pas être. Mais ces gens-là vont à Bali. Alors, ils ont quand même besoin de 1 500-2 000 $ par mois pour vivre. C'est marrant parce qu'ils sont dans des sortes de youth hostels spécialisés dans ce genre de choses avec des bonnes connexions Internet, bien sûr. Mais la jeune femme, Rafa, qui fait les interviews, leur parle à tous et ils sont tous dans genre « Ah ouais, moi je suis freelancer marketing, moi je fais du coaching pour se sentir mieux dans son corps et dans sa tête, moi je fais ceci, moi je fais cela. » Et ils sont tous à Bali avec, oui, ils peuvent vivre avec 1 500-2 000 $ dans ce contexte, ça a l'air assez cool, hein, ça a l'air moderne, bien, bien organisé, il y a la piscine, il y a le soleil. C'est intéressant comme pratique. Je ne sais pas si vous seriez prêt, vous, à partir à Bali en travaillant en ligne. Leïla, tu peux travailler de n'importe où. Tu pars ?
J'aimerais bien, mais comme beaucoup d'entreprises, les échos sont un peu revenus sur le télétravail à 100%. Donc aujourd'hui, c'est télétravail 2 jours par semaine. Donc je peux aller à Bali 2 jours par semaine. Mais c'est vrai que
Non, mais
tu risques d'être un peu jet-lagué là quand même.
Alors évidemment, c'est pas pour toutes les pour tous les métiers. Hein. Faut devenir freelance. Oui. Faut devenir freelance.
Non, mais on voit quand même que, en tout cas, où qu'on aille, on a quand même envie de se retrouver avec d'autres personnes. Enfin, travailler vraiment en solo, c'est souvent un peu dur quand même. C'est bien de se retrouver à des endroits où on peut travailler avec d'autres qui font plus ou moins le même travail pour se soutenir. L'esprit, c'est pas un esprit d'équipe comme une entreprise classique, mais avec d'autres, ça permet de mieux travailler, je trouve, quand même.
C'est marrant, ça fait un peu colonie de vacances, leur truc, quand même. Hein, j'avoue.
Oui.
Après, il y en a pas mal qui partent à l'île.
Pardon, Leïla ?
Il y en a pas mal à l'île Maurice aussi.
Je resterai la grand-mère de l'écosystème des influenceurs de Bali. Ils sont tous, 20 ou 25 ans.
Ouais. C'est ça, oui. Bah, évidemment, c'est plus facile quand tu n'as pas d'attache. Du jour au lendemain, tu peux partir. Et effectivement, c'est super. Moi, je trouve qu'ils ont tout à fait raison de faire ça. Alors évidemment, ça ne touche pas tous les métiers. Hein, tous ne peuvent pas le faire. J'imagine que ça a sans doute des conséquences intéressante, positive et négative sur l'économie et la vie locale à Bali. Mais bon, voilà, c'est un phénomène que je voulais évoquer.
T'as le même phénomène à l'île Maurice. Hein. Moi, j'étais tombé sur un reportage, tu vois, le même genre, mais c'était l'île Maurice. Et bah, c'est une île où t'as la fibre partout. Tu te loues une maison, il y a la fibre. Donc, les gens, ils vont. Alors, tu peux pas jouer parce que tu as trop de latence. Hein. Donc, pour toi, jouer à Overwatch, Patrick, c'est pas possible.
Damned. Mais, bon, j'étais en train de faire mes valises. Tu me casses mes rêves, là.
Non, je suis obligé de te prévenir. Je dois le faire. Il y a beaucoup trop de latence, justement, parce que ça doit traverser l'océan. Mais pour un débit classique, voilà, ils ont des très bons débits. Et j'ai envie de dire, si tu peux faire ton métier en full télétravail, pourquoi pas aller à Bali ou à l'île Maurice ou. Effectivement, dans un petit paradis comme ça, c'est pas mal.
Mais aussi non. L'envers du décor du paradis. La dernière fois, j'ai vu une vidéo que beaucoup remontaient sur Twitter, donc beaucoup ont dû l'avoir vue sur les dégâts environnementaux liés à justement à ces hôtels, tous ces hôtels qui logent les influenceurs qui sont pas forcément des pratiques pas très respectueuses de l'environnement. Donc,
effectivement, c'est.
Je ne connais pas bien le sujet, mais je sais pas, c'est ça.
Je suis sûr que environnementaux, et puis comme je l'évoquais à demi-mot, sur l'économie locale, la manière, une sorte de gentrification de la zone, etc. Oui. etc. Donc,
forcément, ça a des impacts.
Signal a annoncé un nouveau protocole cryptographique qui pourrait contrer les avancées des ordinateurs quantiques. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'une des craintes pour l'arrivée des ordinateurs quantiques, c'est qu'ils pourraient briser les chiffrements classiques, même les plus performants. Et on est heureux d'apprendre que les chercheurs commencent déjà à travailler à des versions qui résistent aux ordinateurs quantiques. Donc peut-être qu'on n'aura pas trop de problèmes si on a mis à jour nos protocoles. Bien sûr, il y aura toujours des documents qui seront oubliés ou qui seront quand même disponibles avec l'ancien chiffrement, qui seront tous brisés. Tinder, on parlait de... Je suis sûr que ça utilise beaucoup Tinder à Bali, là, dans leur machin, enfin, ou peut-être une version physique de Tinder, genre le bar. Mais Tinder est en train de déployer une nouvelle formule d'abonnement qui s'appelle Tinder Select. Alors, vous comprenez, hein, Select, c'est tout de suite genre Select.
C'est pour les VIP, quoi. C'est
ça. Pour les VIP riches, $500 par mois, ça permet de voir les profils les plus recherchés et ça permet aussi de voir d'être matché avec les profils les plus recherchés. C'est pour payer. En fait, on paye pour avoir un match avec les meilleurs profils. Je pense que c'est les plus beaux gosses et belles meufs. Et ça permet aussi d'envoyer, c'est combien, 2 fois par semaine, je crois, des messages à une personne qui ne nous a pas matché. Alors, c'est que 2 fois par semaine, mais c'est un peu...
Ça va être sympa pour les harceleurs.
C'est ça, exactement.
Les stalkers et compagnie. Ça va être sympa.
Je ne sais pas si ça t'évoque la même chose, Leïla. Moi, tout de suite, en même temps, $500 par mois, faut les sortir, mais je suis sûr qu'il y en aura, quoi.
$500 et on rencontre que des personnes qui payent également $500 ou c'est...
Non, tu rencontres les personnes qui sont le plus matchées, en fait. Genre, s'il y a un ranking, cette personne est matchée à, je sais pas, 80%, eh ben, tu vas pouvoir, toi, être matché avec cette personne. Enfin, quand on est matché, on est validé, genre, à 80%. Ben, toi, on va automatiquement te matcher avec cette personne, même si tu ne lui corresponds pas. Après, bon, bah, si vous swipez ou pas du bon côté tous les deux, vous n'êtes pas connectés. Mais tu peux quand même lui envoyer un message 2 fois par semaine parce que tu es Tinder machin.
Oui, d'accord. Oui, moi je trouve ça toujours. Il y a le côté effectivement, il y a le côté peut-être que ça va encourager le harcèlement de certains profils, ça c'est dommage. Mais d'un autre côté, quand je vois ces nouveautés, pas possible, je trouve ça un peu émouvant parce que en fait toutes les techs qu'on a, toutes les algorithmes hyper perfectionnés, toutes ces nouvelles applications pour se rencontrer, mais en fait c'est toujours un casse-tête de trouver l'amour, je trouve ça émouvant d'un côté parce que c'est encore une solution, mais on se doute bien que ça ne sera pas la solution parfaite, ce sera toujours une affaire de hasard, d'histoire personnelle, donc
c'est émouvant. Il y a un petit peu de ça, effectivement, une sorte de doux désespoir, de genre, non, mais je vais payer $500, là, ça va mieux marcher.
J'en suis là, bon. Peut-être que ça va marcher cette fois.
Mais en même temps, je me demande si on voit que la personne est Tinder Select ou pas. Parce que si tu vois, ça fait vraiment genre... La personne qui a... Tu sais, c'est l'effet... C'est ça. C'est l'effet checkmark bleu sur Twitter. C'est genre, non, je les évite.
Si
non,
badge,
c'est bon.
Ils ont l'air de dire que tu as un badge, donc les gens vont voir que tu as un badge Tinder Select.
Mais en même temps, ça veut dire que tu as de quoi payer $500 par mois juste pour ça. Ça va peut-être attirer des personnes un petit peu moins bien intentionnées. Un petit mot pour signaler que dans le processus d'acquisition de Activision Blizzard par Microsoft, la dernière autorité qui faisait vraiment blocage, la CMA, a annoncé qu'ils donnaient un accord de principe sur la nouvelle proposition de Microsoft. On en parlera plus longuement dans le rendez-vous jeu. Mais a priori, ça devrait se faire et c'est l'une des plus grosses acquisitions de ces dernières années. 70 milliards, 77, 67, je ne sais plus. Enfin, autour de 70 milliards de dollars. Donc, ça devrait se faire dans les semaines à venir. On en reparlera quand ça se sera fait, mais on en reparlera aussi dans le rendez-vous jeu, évidemment. Les NFT ne valent plus grand-chose. On a vu un petit peu partout des gens parler de cet article de Business Insider qui rapporte une étude qui montre que sur 73 000 collections de NFT qu'ils ont étudiées, 95% de ce marché valait littéralement zéro Ether, et que donc le marché s'est complètement effondré. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit que ça y est, les NFT sont complètement terminés, au revoir, ça y est, tout le monde s'est fait arnaquer, merci. J'aurais tendance, disons que 95% de moi est d'accord avec cette analyse, il y a quand même 5% qui se dit, Il y a toujours une chance que quelque chose en ressorte. Mais...
Ah, la techno est là, maintenant on va peut-être en trouver vraiment l'usage plutôt que d'acheter des photos de singes à 15 000 $ en espérant que ça vaille 10 millions. Je sais. Le principe du token non fongible reste quand même un principe intéressant autour de la blockchain, etc. Le problème, c'est effectivement l'usage qu'en a été fait là et la hype qu'a pris. Peut-être pas tout de suite, mais je pense que des vrais usages arriveront autour de ça.
Leïla,
j'ai l'impression que dans l'univers du luxe, c'est devenu une pratique assez courante. Enfin, on associe un NFT à un sac d'une telle marque, on a accès à des privilèges en magasin ou en ligne, des choses comme ça. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu plus concret là-dessus, mais c'est vrai que sur le reste, tout le monde, dès le début, était atterré de voir ça décoller et n'attendait qu'une chose, c'était que ça s'effondre.
Est-ce que tu as revendu tous tes Bored Ape Yacht Club au bon moment?
Oui, et puis toutes mes maisons que j'ai achetées le Metaverse aussi.
D'accord, bon, je comprends. Et encore un petit mot comme ça pour dire que le business de location de DVD par la poste de Netflix se termine effectivement là, ces semaines-ci, c'est bientôt, je ne sais plus quand, il y a dans quelques
jours.
Dans 3 jours.
Dans 3 jours.
Et là où je trouve ça vraiment intéressant, c'est que en fait, il a existé depuis sa naissance jusqu'à son... comment on peut dire irrelevance en français, vous voyez je le francise le mot, jusqu'à sa perte d'intérêt absolument total, il y a eu 25 ans. Et 25 ans, alors c'est pas court, hein, mais c'est pas non plus une ère de suprématie d'une forme de vie sur Terre, quoi. 25 ans, c'est quand même, ça passe relativement vite. Et c'était un truc, une manière d'envisager ce type de business qui était révolutionnaire à l'époque et qui est devenu complètement... c'est un petit peu comme les NFT. Ça ne sert à rien. Ça n'a aucune
valeur. Ça n'a pas pris 25 ans, les NFT.
Non, ça n'a pas pris 25 ans, c'est sûr. Et donc voilà, c'est marrant. Parfois, on a tendance à se dire la puissance de certains trucs, l'universalité de certains trucs. Et en fait, ce n'est pas aussi solide qu'on pourrait le penser dans le monde d'aujourd'hui. Peut-être dans le monde d'hier aussi. Revenons un petit peu sur l'IA. Quand on parle d'IA... il est content. Quand on parle d'IA, je dis souvent qu'il est primordial que chacun d'entre nous, si on a un tout petit peu d'activité dans des domaines touchés, c'est-à-dire dans tous les domaines, il faut qu'on s'y intéresse, il faut qu'on le comprenne et il faut qu'on s'y prépare, y compris les gouvernements. Et je suis heureux de constater que la France a missionné un comité composé de grands experts de l'IA pour rendre un rapport et des recommandations sur l'IA dans 6 mois environ. Quand je dis les grands experts, on parle de Yann LeCun, Luc Julia, dont vous avez certainement déjà entendu parler, Joël Barral, Cédric O, de tous les domaines. Et donc, ils vont étudier la chose et rendre un rapport au gouvernement d'ici 6 mois, dans tous les domaines. Hein, on parle de économie, société, influence sociale, etc. Donc, moi, je trouve que c'est évidemment... Enfin, on aura du mal à dire que c'est une mauvaise chose. Et c'est marrant parce que Yann LeCun, Luc Julia, par exemple, sont des noms qu'on connaît bien dans le monde anglophone et dans le monde de la Silicon Valley. Et en fait, ils sont français et donc ils vont travailler à ce projet. Leïla, tu voulais ajouter quelque chose sur ce point ?
Non, effectivement, je trouve ça bien. On a vraiment des cerveaux de l'IA en France. Autant en profiter, à voir ce qui va sortir de ça. Est-ce que c'est un nouveau machin qui va juste pondre un rapport et voilà, ou est-ce que voilà, faut voir.
Il y a un vrai besoin quand même.
Oui, il y a vraiment un besoin. Comme sur l'IA Act, je pense que.
Voilà, nous on commence à avoir des demandes là d'entreprises qui nous disent comment je me protège des IA et comment est-ce que je régule et est-ce que vous pouvez m'aider à écrire des chartes et comment est-ce que je régule l'IA au sein de mon entreprise. Donc tant en termes techniques qu'en termes de gouvernance alors, autour de la cybersécurité, hein, parce que c'est mon métier. Et c'est des demandes, là j'en ai une cette semaine, c'est des demandes qu'on voyait pas arriver avant. Et effectivement, je pense qu'il est temps qu'on ait une position effectivement sur le plan national, parce que ben, les entreprises et les grands groupes se posent déjà la question, qu'il est peut-être même déjà un peu tard. Donc il faut avancer sur le sujet.
C'est le genre d'initiative qui est, à mon sens, je ne pense pas que ça soit le cas ici, mais qu'il est facile de critiquer ou de dire bon ben voilà, ça va être un rapport qui est mis au placard, ou alors c'est déjà trop tard, ou il est temps. Moi je trouve que ça va, c'est pas si on n'est pas sur une temporalité qui est si longue que ça. Comme je le disais, souvenez-vous, hein, cette génération d'IA générative justement est arrivée il y a un an, hein, c'était l'été 2022. On a commencé à voir apparaître Midjourney, ce genre de choses. ChatGPT, c'était à la rentrée. Et je trouve que la manière... Ce n'est pas la première fois qu'il parle d'IA au gouvernement, mais la manière dont on l'approche, on ne peut pas le faire, genre... On ne peut pas chasser chaque trend à l'instant où le monde de la tech s'enflamme et dit « Oh, ce truc, c'est incroyable, ça va, machin !» On laisse passer quand même un petit moment pour s'assurer que ce n'est pas n'importe quoi. Et puis ensuite, évidemment que ça ne va pas tout à coup, parce que 6 personnes qui s'y connaissent ont écrit un rapport, tout va être transformé. Mais c'est une étape qui est nécessaire et importante dans une organisation sociétale qui est très centralisée comme celle de la France, où l'État joue un grand rôle, peut-être plus qu'ailleurs, plus qu'aux États-Unis, et ce n'est pas forcément un mal. C'est une étape qui est importante et qui est nécessaire. Et même s'il va y avoir des frustrations et des gens qui vont dire « Ah oui, mais on a dit ci et ça, mais au final, il y a des intérêts qui, ici, poussent vers ci, poussent vers ça », c'est inévitable. C'est comme ça que fonctionne la société. Et on ne peut pas avoir un groupe de 6 personnes qui va déterminer l'action du gouvernement dans son ensemble. Donc, c'est normal qu'il y ait des influences. C'est même souhaitable, je dirais. Et on ne peut pas tout chambouler du jour au lendemain. Il y a des mécanismes qui font qu'une société et le gouvernement et la loi ne peut pas être retourné en un instant. Donc oui, il va y avoir des frustrations, mais c'est quand même une bonne chose que, enfin c'est plus que nécessaire que le gouvernement s'y intéresse, et on a des gens hautement légitimes pour le faire, quoi.
Et puis c'est normal d'avoir attendu un peu, d'avoir un peu de recul sur la situation, etc. Ça évite aussi de prendre des décisions à la va-vite, hein, si le gouvernement italien nous écoute, et de prendre des décisions beaucoup trop radicales. Donc encadrer, oui, mais effectivement, il fallait un peu de recul, voir un petit peu les tendances. Je pense qu'aujourd'hui, on commence à la voir, même si tu l'as dit, au final, on a l'impression que c'est vieux et en fait, ça fait qu'un an. Mais je pense que là, on a un petit peu plus de maturité sur le sujet. On voit comment ça se profile, vers quoi ça évolue. Et du coup, on peut se poser et commencer à réfléchir sur le sujet. Donc, je trouve que la temporalité est plutôt bonne.
Leïla, dans 6 mois, on revient et on parle du rapport et comment il a été mis au placard et transformé. On fera l'inverse.
Non, parce que il y a aussi ceux qui demandaient la pause de l'IA pendant 6 mois, là, donc on est au bout des 6 mois, on a vu cette pause phénoménale.
énorme.
Ouais. Tout à fait, oui. Et entre parenthèses, à propos d'IA et un sujet connexe, la Writers Guild of America et ses compatriotes ont réussi à trouver un accord avec les studios. Donc la grève des auteurs du cinéma et de la télé prend a priori fin dans les jours qui viennent pour un contrat de 3 ans qui intègre des lois et des règles sur l'IA. Et on imagine que la grève des acteurs pourrait prendre fin assez vite aussi. Enfin, on espère qu'ils vont trouver un accord également. Ils sont visiblement tous contents. C'est marrant parce qu'on est vraiment naturellement et nécessairement dans des postures très antagonistes au moment du début de la grève et pendant la grève, qui a débuté en mai, hein, rappelons-le, ce qui est normal, parce que chacun essaye de tirer le meilleur parti de ce conflit et de se positionner en position de force, justement. Et puis là, la déclaration est assez amusante, parce que nous avons trouvé un accord qui satisfait tout le monde, nous sommes heureux de cette discussion, et genre tout le monde est ami, tout le monde est content, d'un côté comme de l'autre, donc c'est rigolo.
Justement, ils demandaient des garde-fous, les acteurs, ils demandaient des limites sur l'usage de l'intelligence artificielle, parce qu'ils avaient peur que leur image ou leur voix soit clonée, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la traduction, par exemple, c'est vraiment déjà en train de tout chambouler.
Complètement. Et les acteurs n'ont pas encore trouvé d'accord. Là, on parle des auteurs. Et comme tu le disais, ils avaient peur de ça parce que les studios étaient en train de pousser des règles dans les contrats, des clauses dans les contrats qui permettaient ce genre de choses. Donc, c'est vraiment...
Ah oui.
Enfin, ça devait évidemment arriver à un conflit. C'est normal. Et encore une fois, chacun est dans son rôle. Et c'est une manière de résoudre ce problème en ayant des discussions sérieuses, quoi. Donc, pas du tout alarmant, je trouve. C'était pas alarmant à ce stade. Puisqu'on parle de chiffres, tiens, et j'ai choisi cette news spécialement pour toi, Stéphane.
C'est pas vrai.
Dans le monde, il y a un besoin d'experts en cybersécurité qui se monte à 4,7 millions qui était à 4,7 millions de personnes en 2022, et il en manquait 3,4 millions, selon une étude récente. Le salaire moyen, c'est entre 120 et 150 000 dollars par an.
Spoiler alerte, pas en France.
Aux États-Unis, ouais, sachant que le salaire aux États-Unis, il faut en enlever beaucoup pour des trucs accessoires, hein, genre l'assurance santé, l'éducation, la retraite, tout ça, bref. Mais... 3,4 millions.
C'est quoi, c'est 401K, oui.
3,4 millions sur 4,7, il y a besoin d'une quantité. Je ne sais pas si vous écoutez cette émission, que vous êtes développeur et que vous cherchez à vous reconvertir ou que vous êtes dans le monde de la tech, peut-être que c'est un domaine porteur, la cybersécurité, Stéphane ?
Alors, c'est un domaine ultra porteur. Nous, on a... beaucoup de mal à recruter. Alors en ce moment, ça va un petit peu mieux, mais c'est l'attractivité de la société dans laquelle je travaille qui fait que, je pense.
C'est parce que toi, tu travailles aussi, soyons honnêtes.
Oui, exactement, et que les gens m'entendent dans le rendez-vous tech. Enfin, voyons.
C'est ça.
Voilà. D'ailleurs, il y a mon chef qui nous écoute. Hein, donc,
bonjour, monsieur.
Salut à lui. Salut, Gwen. Oui, il y a de toute façon, on manque énormément de profils. Alors, pitié, ne cliquez pas sur les liens TikTok pour vous convertir dans la cybersécurité au travers de formations qui peuvent passer, qui sont plus accadabrantesques les unes que les autres. Oui, il y a des formations. Vous pouvez vous former sur le tard. Il y a besoin de profils. Et bien entendu, c'est attractif. Et on ne s'ennuie jamais.
Peut-être qu'on ne s'ennuie jamais. Peut-être qu'un jour, on pourra discuter de la manière dont on peut se former à ce genre de métier. Hein.
Allez, soyons fous, un troisième épisode spécial sécurité, formation en cyber.
Pas bête.
C'est vendu. Il y a des formations professionnelles, mais il y a aussi formation des femmes, ou alors davantage de formation pour les étudiants. Et puis, il faut aussi parler des conditions de travail dans la cybersécurité où parfois il y a beaucoup de pression. J'avais vu une étude, moi, sur les burn-out dans la profession qui était assez élevée.
La charge mentale, c'est quand même un métier où la charge mentale est très élevée. Il ne faut pas se leurrer. Donc oui, il faut être capable d'absorber ça. Après, c'est à nous, les managers aussi, de savoir... gérer les équipes et le bien-être des équipes. Mais oui, tu as raison, Leïla, il y a eu énormément de burn-out dans nos métiers.
J'imagine que quand ton quotidien, enfin, ou régulièrement, t'as un moment où, oh mon Dieu, c'est l'horreur, c'est la crise, il y a un truc qui est urgent et délicat, et le client panique, et je peux imaginer que c'est assez difficile à gérer, quoi. Et en plus, il manque la boîte.
Je vais juste répondre à Verven dans le chat. Pardon, Patrick, je t'ai coupé. Il dit que ce n'est pas perdu d'avance la cybersécurité face à la créativité des hackers. En fait, il faut savoir que ça fait très longtemps que les hackers n'ont pas été très créatifs et que la plupart des attaques aujourd'hui, c'est des attaques qu'on connaît. Ça utilise beaucoup la faille humaine. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur la sensibilisation. Mais pour en parler avec les gens les experts Miami dont je t'avais parlé chez nous, ils me disent que effectivement, ça fait bien longtemps qu'ils n'ont pas vu Tu vois, un peu comme le chirurgien qui découvre une tumeur qu'il n'a jamais vue. Ça fait bien longtemps qu'ils n'ont pas découvert un nouveau système d'attaque. C'est beaucoup de recyclés, c'est beaucoup de plateformes as a service sur le Darknet qui sont utilisées par des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de compétences. Donc on va commencer par éliminer tout ça, protéger les entreprises et les particuliers de tout ça. Et après, on aura peut-être affaire à des hackers créatifs. Mais pour l'instant, c'est pas vraiment le cas.
Bah, c'est des entreprises criminelles qui sont là pour faire de l'argent. Et quand tu peux avoir une solution, une solution pré-hostée que tu vas pouvoir lancer sur, je sais pas moi, 10 cibles, ou alors tu vas t'emmerder à essayer de trouver la faille spécifique du système de telle cible, machin, qui va te coûter plus d'argent et plus de temps. Évidemment,
ils industrialisent. Standard, quoi. Ils industrialisent. Voilà.
On m'avait dit, moi, dans la cybersécurité, c'est que le but, c'est pas de courir, d'être, par exemple, si on est poursuivi par un lion, le but, c'est pas de courir plus vite que le lion, mais de courir plus vite que les autres proies chassées par le lion, et ça suffit. En fait, il peut pas être une proie facile, parce que, en fait, la plupart des hackers visent large, ils visent des tas d'entreprises qui ne sont pas du tout protégées, et, en espérant tomber sur des failles, et qu'il suffit d'un minimum d'hygiène informatique, de solutions de cybersécurité pour protéger de la plupart des...
Moi, je le tourne un peu différemment à mes clients, mais, mais c'est un peu ça, au final. Hein. C'est de leur dire, on va s'arranger pour que le hacker trouve ça trop compliqué et qu'il aille chez le voisin. S'il veut rentrer, il rentrera. Le problème, en fait, c'est le temps qu'il va mettre à rentrer et ce que ça va lui rapporter en fonction. Donc, il va préférer aller à un endroit où c'est plus facile pour pouvoir multiplier les attaques plutôt que dans un endroit où c'est difficile, sauf s'il y a un but particulier derrière, comme aller faire de l'espionnage industriel, etc. Ouais. etc. Mais ce qui n'est pas la majorité des attaques aujourd'hui.
Oui, j'allais en venir aussi à cette version spéciale du hack, genre espionnage industriel. Là, par contre, ça devient James Bond et les experts à Miami. Et c'est genre,
on peut en faire une émission, Patrick. J'ai plein de trucs à te raconter.
Reparlons-nous. Un autre chiffre que j'ai trouvé hyper intéressant aussi, c'est le nombre de marques de smartphones et leur évolution entre 2017, où elles étaient à leur zénith, jusqu'à 2023. En fait, on est passé de plus de 720 marques en 2017 à 250 seulement en 2023. C'est essentiellement des marques locales, nationales, qui ont disparu. Alors, c'est peut-être pas surprenant étant donné la maturation du marché. Et un autre facteur, c'est l'arrivée de la 5G qui a nécessité des investissements et des fonctions un petit peu plus spécifiques. Mais c'est intéressant de voir qu'on a vu une division par 3 du nombre de smartphones entre 2017 et 2023. Quelques petits mots sur Apple. Hein. Il semblerait que les iPhone 15 chauffent beaucoup, particulièrement les 15 Pro et les 15 Pro Max. Encore plus, semble-t-il, possiblement, qu'il n'est normal quand un iPhone vient d'avoir un nouvel OS et qu'il est en train de réindexer toutes ses bases de données, faire tous ses travaux d'intelligence artificielle les premiers jours. Il semblerait que ça chauffe encore plus, donc à suivre. Il semblerait aussi que la nouvelle matière fine woven d'Apple soit, vous savez, c'est ce truc qui est censé remplacer le cuir. Ben, il semblerait, d'après les premières impressions, que ça se s'use très vite, que ça soit un petit peu moche, que ça laisse des marques très vite sur la matière. Donc, c'est un peu dommage parce que ça remplace le cuir avec une matière qui est entièrement recyclée, etc. Donc, peut-être qu'il y aura une version 2 qui sera moins fragile.
Toi, t'es de mèche avec ma femme pour pas que j'achète le nouvel iPhone, c'est ça?
Écoute, moi, je résiste. J'en parlais la semaine dernière.
Moi, j'ai un 13, tu vois, j'ai un 13 Pro Max. Du coup, en général, je saute une génération. Là, j'avais dit le 15 peut-être, surtout avec l'USB-C, tu vois. Mais bon, du coup, là, je vais attendre un peu.
Stéphane, je vais te motiver. Moi, j'ai un 12.
Ouais, un 12
sûr. Ouais, un 12 Pro.
Allez, je vais attendre le 16. Allez, c'est bon.
12 aussi, ouais.
Ah, voilà.
Qu'il lâche complètement.
Qu'il lâche complètement.
Okay, bon, dans ce cas-là, je prendrai une Apple Watch Ultra.
Ultra, mais enfin, est-ce que tu fais du sport ultra?
Non, mais je fais du rechargement de batterie ultra.
Ok, très bien. Tu vas changer de téléphone, Léla?
Non, je ne pense pas. J'avoue que la seule chose que je regarde maintenant sur les nouveaux téléphones, c'est l'appareil photo, parce que j'aime bien faire de belles photos. Et peut-être que quand je verrai les nouveaux, que moi, j'aurai l'impression de faire des trucs moches, je finirai par changer. Mais généralement, non, je ne change pas jusqu'à ce que ce soit vraiment
la nécessaire. Fin. Très bien, bravo. Bon, moi, pour le moment, je disais la semaine dernière, je ne sais pas, peut-être, machin. Pour le moment, je résiste. Je tiens bon. On verra. Le 16, ça sera... Alors, par contre, si je tiens jusqu'à l'année prochaine, je peux vous dire que l'année prochaine, ça sera genre « Ah, mais Patrick, t'es vraiment un super-héros de l'environnement. T'as peut-être pris l'avion 4 fois dans l'année, mais au moins, ton téléphone, tu l'as gardé 4 ans, tu te rends compte. Je vais me self-congratuler comme c'est pas possible. » Oui, j'ai tweeté...
Je le revends à chaque fois, tu vois, donc...
Oui, bien sûr, tu le revends.
Il continue son cycle après, tranquillement. Tout à fait.
J'ai tweeté à ce propos, j'ai utilisé le mème, vous savez, du type qui gagne une médaille et qui mord la médaille, qui jette du champagne partout, qui fait des doigts d'honneur, machin genre. Et puis la dernière image, c'est il est en 3e place, en fait. Je trouve que ça illustre assez bien ma réaction à l'idée. Je suis trop fort.
Non, mais en vrai, c'est nous qui faisons tout le travail. Apple a fait plein d'annonces comme quoi ils allaient faire des choses pour l'environnement. Mais en fait, c'est nous qui faisons le travail en achetant moins d'iPhone.
C'est ça qui est bon
pour la planète, en fait.
Jusqu'à ce qu'on puisse acheter des iPhones carbon neutral, comme l'Apple Watch, là, peut-être que ça arrivera un jour. Imaginez un jour. Alors là, on peut se prendre à rêver un instant, tous les trois ensemble, avec nos auditeurs et nos auditrices. Imaginez qu'un jour, on puisse acheter, même pas tous les appareils tech, mais un téléphone qui soit neutre en carbone, véritablement neutre en carbone. Alors, il faudra voir s'il y a des compensations, machin, mais qui, du coup, je me demande si on réussirait à se sortir de cet état d'esprit dans lequel on s'est nécessairement et utilement placé, de se dire, faut pas acheter d'appareil parce que ça nuit à l'environnement. Imaginons qu'il y ait un appareil qui ne nuise pas à l'environnement. C'est un gros imaginons. Hein. Je comprends bien que ce n'est pas parce que Apple va nous dire dans 5 ans « Ah, cet iPhone, vous pouvez y aller, c'est la fête du slip, vous pouvez acheter un téléphone, ça ne nuit pas à l'environnement. » Il faudra vérifier. Mais imaginons que, il y a le WWF qui dit « Si, celui-là, il est bon, vous pouvez l'acheter, ça ne nuit pas à l'environnement. » Imaginez. Ça serait fou.
Il faudrait qu'il soit en fait 100% réparable. Là, ce serait vraiment neutre.
Disons que la réparabilité, c'est encore autre chose, mais le fait que sa production ne nuise pas du tout en aucune manière à l'environnement. À ce moment,
qu'il soit réparable. On irait miner les matériaux sur un astéroïde, par exemple,
recycler. Si c'est que du recyclé, par exemple, je sais que ça ne se produira pas, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais imaginons.
On recycle de plus en plus. Maintenant, même le cobalt et tout des batteries, on arrive à le réextraire pour le réutiliser. Donc, pourquoi pas? Mais bon, pour l'instant, ça reste encore un peu utopique.
Non, mais imaginons, soyons fous, rêvons.
Vous êtes sur une route départementale. Ah, j'aime pas les routes départementales.
Bon, vous ne voulez pas rêver avec moi, tant pis. dernière chose, Elon Musk a évoqué l'idée que de rendre Twitter entièrement payant. Bon, ça, j'y crois pas trop. Il y a des mises à jour chez Mastodon qui simplifient l'arrivée des nouveaux utilisateurs. Blue Sky a beaucoup gagné en popularité. Il y a beaucoup de gens qui disaient « ça y est, Blue Sky, c'est super cool, c'est vraiment incroyable, c'est le remplacement de Twitter ». Et il y a 1 million d'utilisateurs sur Blue Sky, avec les 50 000 qui ont signé le 19 septembre quand Musk a dit « je vais rendre Twitter payant ». 1 million. On est encore loin, on est encore loin. Mais il y a un dernier article que je voudrais vous partager et qui lui aussi sera dans la newsletter. C'est un article qui a été écrit par Yoel Roth, qui est l'ancien responsable du Trust and Safety de Twitter. Vous vous souvenez qu'il avait été attaqué notamment par Elon Musk et Donald Trump et d'autres. Et il relate de manière hyper intéressante les raisons et les conséquences de ces attaques et de ce harcèlement, notamment au-delà de lui, ce qu'il a vécu, mais sur les médias en général et sur dans le spectre politique en général, l'effet que ça a sur ce qu'on peut dire, ce que les sociétés de réseaux sociaux peuvent modérer, sur la manière dont on parle dans les médias de différents mouvements politiques, actions politiques, et sur la manière dont l'extrême droite bénéficie de ces attaques permanentes, parce que moralement, les gens n'ont plus envie de s'élever contre certaines choses, et même légalement, ça devient compliqué parce qu'il y a tellement de procédures et de procès et d'attaques et de... que du coup, même si les recherches ont montré à maintes et maintes reprises et la loi a montré à maintes et maintes reprises qu'il n'y avait pas de traitement partisan de la modération ou des idées politiques, mais on était vraiment basé sur les déclarations problématiques, les attaques, le harcèlement, etc., et ben, l'effet de ces attaques permanentes est que c'est un petit peu un « chill on free speech », c'est-à-dire un gel de l'expression et qui avait un effet vraiment néfaste. C'est un article qui est très intéressant et qui explique bien le problème et la stratégie, j'irais même jusqu'à dire, de cette frange de la droite, de l'extrême droite, en particulier aux États-Unis, on parle de la droite MAGA, qui a un effet concret, quoi. Donc, je vous encourage à aller le lire. Je crois que ça va être la fin de notre rendez-vous tech. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. J'espère que vous irez prêter un petit peu de votre attention aux intervenants quand ils font d'autres choses que être dans le rendez-vous tech. Encore que Stéphane, plus de chaîne YouTube, plus de tchic-tchac, plus de... Tu fais des choses en ligne ?
Eh ben, plus beaucoup. Hein, plus beaucoup, mais @stéphane sur Twitter, je tweet une fois de temps en temps. Enfin, sur X, pardon. Mais je ne suis pas comme toi, une star de X. Voilà. Fallait la faire, c'est obligé.
C'est la première fois. Hein. Pourtant, il y avait eu des occasions, mais c'est la première fois dans l'émission.
Mais non. Bon, voilà, @stéphane. Et puis, j'ai ma chaîne Révolution 3D, mais qui effectivement stagne un petit peu. Je ne désespère pas d'avoir un peu de temps pour refaire du contenu, mais comme tu le sais, l'actualité cyber et ma famille font que je n'ai pas le temps de faire beaucoup d'autres choses à côté.
Bon, @stéphane sur Twitter, comme toujours. Merci beaucoup, Stéphane, d'avoir été là. Et on se reparle pour
Merci
les histoires d'épisodes spéciaux à l'avenir. Leïla, les échos, on peut te trouver là-bas.
Oui, surtout là-bas. C'est vrai que sur Twitter /X, j'y vais de moins en moins. Je fais de moins en moins de contenu X. Donc, ça, plutôt sur les échos lui-même.
Et donc,
merci, Leïla. Je me sens moins seule.
On apprécie la fraternité et la sororité. Du coup, on mettra le lien vers ton compte Twitter quand même. Alors, l'appellation officielle aujourd'hui, c'est X, formerly Twitter. Donc, X précédemment Twitter. Ouais. C'est comme ça qu'on dit. Donc, on mettra les liens vers vos deux comptes dans les notes de l'émission, comme toujours. Pour ma part, c'est NotePatrick, un petit peu partout. Vous avez tous les liens dans les notes de l'émission ou alors sur NotePatrick.com. C'est facile. NotePatrick.com, vous avez la newsletter, je vous en parle régulièrement parce que c'est vraiment devenu l'endroit où je mets tous les articles intéressants à suivre et vous le recevez chaque semaine, chaque vendredi matin. Comme ça, ça vous fait un petit peu de lecture ou de rappel même de ce dont on a parlé dans les émissions, le rendez-vous tech et dans le rendez-vous jeu. Donc, vous pouvez vous abonner sur NotePatrick.com. Vous pouvez aussi vous abonner au Patreon sur patreon.com/rdvtech. Le lien est là aussi dans les notes de l'émission. Et vous avez du coup un épisode sans pub chaque semaine et puis je vais faire un petit édito là pour le week-end je pense où on va voir mais je vais faire un petit édito bientôt pour vous parler de différentes choses qui se passent en ce moment dans ma vie professionnelle et un peu personnelle peut-être et vous avez aussi le Discord, Twitch sur lequel on est en live tous les mardis midi et le jeudi midi pour le rendez-vous jeu, enfin bref il y a plein de choses. L'essentiel, c'est bien sûr patreon.com/rdvtech pour soutenir l'émission. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous et à toutes. Bisous.
Mom. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.